Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Envoyez votre lumière et votre vérité, elles me guideront et me conduiront à votre montagne sainte et à vos tabernacles. Mes frères, le carême touche à sa fin. Il nous reste encore du temps pour faire pénitence, parce que vous savez que ce temps de pénitence, ce temps de carême, ne s'achèvera que par la passion et la mort de notre Seigneur, qui ressuscitera le troisième jour. Nul ne peut accéder à la récompense s'il n'a combattu jusqu'à la fin et triomphé. Ça, c'est vrai pour la vie chrétienne en général. Disons-nous, pour essayer de le rendre plus compréhensible, cette maxime plus compréhensible, disons-nous que nous aurons mauvaise conscience à nous réjouir le jour de Pâques et durant le temps pascal si nous n'avons pas vraiment fait pénitence et vraiment observé le temps du carême pendant le temps qui nous est donné. Soyons attentifs à ne pas nous préparer de la déception, de la tristesse, de la mauvaise conscience, alors que nous avons encore le temps, il nous reste 2 semaines, nous avons encore le temps de faire pénitence, nous avons encore le temps de tirer profit du carême. Il est encore temps, dis-je, de tirer profit du carême en entrant dans le mystère de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ et en nous y conformant. Les 2 dernières semaines de carême, c'est le temps de la passion. Et même si aujourd'hui nous anticipons un petit peu sur la doctrine de la passion de notre Seigneur, il se trouve que l'Église nous donne déjà de rentrer dans une pénitence plus intérieure encore, en essayant de comprendre ce qui a trait à la passion de notre Seigneur. Alors, avec l'aide du Saint-Esprit, nous avons plusieurs choses à voir. Nous allons voir brièvement, bien sûr, la doctrine de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons aussi dire un mot de la nécessité de la passion de notre Seigneur pour notre salut. Et puis, ça nous donnera l'occasion, un peu avant cela, de réfuter une erreur, soit dit en passant, mais de réfuter une erreur qui court passablement, profondément dans les esprits de nos contemporains, et qui est sur laquelle c'est le temps ou jamais de dire quelque chose. C'est le moment ou jamais de dire quelque chose. Le deuxième point, dans notre deuxième point, nous livrerons à quelques considérations sur la réalisation de la passion. C'est-à-dire qu'il y a la doctrine de la passion, il y a la nécessité de la passion, et ensuite il y a la passion réalisée. Et nous dirons un mot de la victime, des bénéficiaires de la passion, mais aussi des bourreaux qui ont été les agents de la passion. Et nous découvrirons un aspect terrible et assez méconnu de la passion de notre Seigneur. Et de la doctrine de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Et en troisième point, nous verrons que le Christ rédempteur fait horreur à l'homme naturel, et nous verrons que bien des chrétiens blasphèment contre le Christ sans même s'en rendre compte. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus.
Écoutez ce que dit saint Paul dans l'Épître. Mes frères, le Christ, qui a apparu comme le grand prêtre des biens à venir, a passé par un tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'a pas été fait de main d'homme, c'est-à-dire qui n'appartient pas à cette création. Et ce n'est pas avec le sang des boucs et des taureaux, mais avec son propre sang qu'il est, une fois pour toutes, entré dans le sanctuaire, après avoir conquis une rédemption éternelle. Mes très chers frères, si notre Seigneur Jésus-Christ a souffert, fondamentalement, la première chose que nous devons savoir et garder à l'esprit tout le temps, c'est qu'il a souffert volontairement. C'est volontairement qu'il a souffert. C'est volontairement qu'il a souffert pour réaliser l'expiation des péchés de son peuple. Le souverain pontife de l'Ancienne Alliance, qui rentrait une fois par an dans le tabernacle, dans le lieu très saint du tabernacle et dans le temple, pour faire l'aspersion du sang, était un homme qui était pécheur lui-même, dit saint Paul, et qui avait besoin d'expier ses péchés, et comme il était grand prêtre, de faire aussi l'expiation pour les péchés du peuple. Il se trouve que c'était de la figure de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, seul de tous les hommes, car il est vrai homme, seul de tous les hommes, est innocent. De telle sorte que l'expiation qu'il a accomplie, il l'a accomplie entièrement et uniquement au bénéfice de ceux pour lesquels il l'a accomplie. Il n'a pas dû se réconcilier avec Dieu afin de pouvoir, par la même occasion et en même temps et par ailleurs, remplir une tâche de médiation entre Dieu et les hommes de par l'institution mosaïque. Notre Seigneur est le Fils éternel de Dieu, incarné de la très sainte Vierge Marie, qui a souffert volontairement pour nous, afin que nous puissions bénéficier de cette rédemption qu'il a accomplie et que signifiaient tous les sacrifices de l'Ancien Testament. C'est pour réaliser l'expiation des péchés de son peuple qu'il a souffert. C'est pour cela que nous disons dans le credo « Propter nos homines et propter nostram salutem ». Pour nous les hommes et pour notre salut, il s'est incarné, il a souffert, il est mort, il est ressuscité. Il y a une erreur, si on doit parler de la passion, et nous allons dans un instant, avec l'aide de Dieu, dire un certain nombre de choses sur la doctrine de la passion de notre Seigneur, mais il y a, si on parle de la passion, à notre époque, cette expression de passion est souvent appliquée à l'Église. Et souvent, par-ci par-là, on entend l'expression « la passion de l'Église », on entend des conférences sur la passion de l'Église, on entend toutes sortes de commentaires sur la passion de l'Église. En quoi consiste cette idée de la passion de l'Église? Et je vous dis tout de suite que c'est une erreur gravissime que de parler de la passion de l'Église. Alors, nous n'allons pas faire une conférence sur la passion de l'Église, parce que nous parlons de la passion de notre Seigneur, mais vous voyez, parvenu à la fin des temps, ou enfin juste à la veille de la fin des temps, il se trouve que, alors que dans l'Église jusqu'à présent, jusque-là, on avait parlé uniquement de la passion, c'est-à-dire les souffrances rédemptrices de notre Seigneur, vers la fin des temps, lorsque la confusion s'installe, on commence à parler de la passion de l'Église. De telle sorte qu'on soit obligé de dire la passion de notre Seigneur pour la distinguer de la passion de l'Église. C'est une nouveauté, c'est une nouveauté, c'est une expression nouvelle. C'est d'ailleurs une expression qui vient d'une invention, il faut savoir d'où ça vient. On a l'impression que ça vient du fin fond des âges, ou alors on a l'impression que ça fait partie du fond commun du catholicisme fidèle, c'est-à-dire traditionnel, si vous voulez. Enfin, on en parle beaucoup chez les traditionnels ici, si vous voulez parler grossièrement. Donc, on parle de la passion de l'Église. D'où vient cette notion de la passion de l'Église? Eh bien, il se trouve que, contrairement à ce qu'on peut s'imaginer, et ce que s'imaginent aussi les militants nés de la dernière pluie, qui s'imaginent, parce qu'ils ont lu à tort et à travers toutes sortes de choses, et qu'ils font toutes sortes de confusions, ils s'imaginent avoir tout compris, il se trouve que le concept de passion de l'Église est né plus ou moins dans les années 70, en tout cas a été popularisé dans les années 70, par la frange ultra-conservatrice de ce qu'on appelle les modernistes, mais c'est-à-dire des sectateurs de la néo-église, afin de contrer le rejet de la néo-église et de ses erreurs par ceux que l'on appelle grossièrement les traditionalistes. C'est-à-dire que les traditionnalistes disaient, en gros, traditionnalistes toutes tendances confondues, nous ne sommes pas ici en train de faire un cours d'histoire très précis, mais nous disons les grandes lignes, les traditionnalistes disaient « ce n'est pas possible que ce que nous voyons ressortisse de l'Église ». C'est-à-dire que d'une manière ou d'une autre, qu'on soit cédévacantiste, qu'on soit lefévriste ou quoi, nous sommes tous d'accord pour reconnaître qu'il n'est pas possible d'imputer à l'Église ce qu'il semble que l'Église fait. Or, il faut prendre des mesures. Certains ont compris que ce qui se prétendait l'Église n'était pas l'Église. Et effectivement, c'est notre position. D'autres ont dit que tout en étant véritablement l'Église, l'Église se livre à des choses inacceptables et des choses qui sont gravissimes dans l'ordre de la foi. Donc, qu'il faut prendre ses distances, ce sont les lefévristes, il faut prendre ses distances avec l'Église qui fait n'importe quoi. Bon, ce n'est pas notre opinion, mais disons que c'est une position de distanciation. Mais il y a des gens qui ont commencé à dire « il ne faut pas prendre ses distances ni avec l'Église, ni avec le pape, ni avec la hiérarchie, il faut prendre conscience de ce qui se passe, or ce qui se passe, c'est la passion de l'Église ». Donc nous allons vous expliquer ce qu'est la passion de l'Église. De même que le Christ, qui est le chef de l'Église, a connu sa passion, c'est-à-dire a souffert. La passion ici signifie la souffrance. Hein, ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle la passion. La passion, c'est la souffrance. Donc, de même que le chef de l'Église, le Christ, a souffert, et il a souffert de quelque chose qu'on appelle sa passion, de même, l'Église, à l'imitation de son divin époux, doit connaître aussi, vers la fin des temps, la passion. De même que la passion consiste la passion de notre Seigneur consiste chronologiquement dans les derniers jours de sa vie, et bien dans les derniers jours de la vie de l'Église, l'Église doit connaître la passion. Or, il se trouve que en quoi consiste la passion de notre Seigneur ? Ils vont dire quelque chose qui est vrai ici. C'est notre Seigneur a été fait péché pour nous. C'est-à-dire que notre Seigneur a souffert, quoiqu'il fût innocent, et cela est vrai, notre Seigneur a souffert comme un pécheur, et c'est vrai, afin de porter les péchés du monde, c'est vrai, c'est toujours vrai, donc jusque-là c'est vrai, nous sommes d'accord, il a été fait péché pour nous et il a été traité par Dieu comme un pécheur, c'est vrai, c'est toujours vrai, de telle sorte que, extérieurement parlant, on aurait pu penser que le Christ était un pécheur. Sous un certain rapport, ce n'est pas faux parce que il a été crucifié. Et on ne crucifiait que les grands pécheurs, que les grands criminels. Les Romains, qui étaient des gens durs, mais c'était des gens justes aussi. Ils ne crucifiaient que ceux qui étaient condamnés pour des crimes atroces, des bandits de grand chemin, des esclaves révoltés, des parricides, etc. Bon, tout le monde n'était pas crucifié. Donc, d'une certaine manière, on pourrait dire effectivement le Christ a été en quelque sorte extérieurement identifié à un pécheur, puisque même dans l'Ancien Testament, il est dit « maudit soit celui qui est pendu au bois ». Notre Seigneur a été pendu, a été crucifié au bois, c'est pas la pendaison, hein, c'est la crucifixion. Donc, il a été crucifié, il a été fait péché pour nous, non pas simplement aux yeux de Dieu, mais aux yeux de tous. Bon, jusque-là, moyennant quelques interprétations, quelques explications, nous sommes d'accord. Maintenant, que disent les gens qui parlent de la passion de l'Église ? Ils disent, vous comprenez, le pape qui profère des propos hérétiques, l'entièreté de la hiérarchie catholique qui fait absolument n'importe quoi et qui se comporte comme des hérétiques, comme des apostats, c'est la passion de l'Église, c'est-à-dire que l'Église est faite péché. Elle porte le péché, elle est identifiée au péché, et comme le Christ a eu l'apparence du pécheur, l'Église a, elle aussi, l'apparence d'une église apostate. Donc, il ne faut pas méconnaître l'église pécheresse, comme il n'aurait pas fallu que les apôtres se débinent devant notre Seigneur, traité comme un coupable, et comme les juifs, disons, qui ont considéré que si le Christ, si cet homme était crucifié, c'est bien que d'une certaine manière, il était coupable. Ils se sont trompés parce qu'ils n'ont pas vu au-delà des apparences. Au-delà de l'apparence de la malédiction, il y avait la vérité du Christ. Au-delà l'apparence de l'hérésie, eh bien, il y a l'Église catholique. Vous voyez ? Donc, les partisans de la passion de l'Église nous disent « Ne vous trompez pas, ne soyez ni le févriste ni cédévacantiste, ne vous détachez pas de cette Église, parce que cette Église est défigurée, elle est immonde, elle est atroce, elle n'a plus visage humain, tellement elle est hérétique, mais elle ressemble à son divin chef qui a été fait péché pour le monde. » Et alors, quand on entend des choses comme expliquées comme ça, on se dit « Mais oui, effectivement, est-ce qu'il n'y a pas un aspect schismatique ?» à se laisser scandaliser par, comme les apôtres en fait, et comme les juifs, à se laisser scandaliser par ce spectacle d'une église souillée, d'une église avélie, d'une église œcuménique, d'une église, enfin tout ce que vous voulez, tous les termes de corruption, appliquez-les à l'église. Est-ce que ce n'est pas manquer de foi que de ne pas reconnaître, au-delà de cette apparence hérétique de l'église catholique de toujours la véritable épouse du Christ. Alors, effectivement, ça fait réfléchir, et c'est pour cela qu'il existe une frange dans la néo-église, il existe une frange ultra-conservatrice qui croit vraiment que c'est la passion de l'Église. Or, il se trouve que, alors j'ai essayé d'expliquer les choses, j'espère que je ne me suis pas trompé, mais j'ai essayé d'expliquer les choses comme ces gens-là les expliquent. Nous ne sommes pas ici pour faire des caricatures de ce que disent les gens avec lesquels nous ne sommes pas d'accord. Le problème, voyez-vous, c'est que, enfin, il y a plusieurs problèmes. C'est que, tout simplement, ce sont des gens qui donnent leur explication, mais leur explication devrait être, en quelque sorte, corroborée quand même, d'une manière ou d'une autre, un tant soit peu, par leur hiérarchie. Or, il se trouve que leur pape, François, actuellement leur pape, eh bien, a dit à un moment, il y a quelques années, il a dit, l'Église n'a jamais été aussi bien portante qu'aujourd'hui. Donc, alors, ce n'est pas que nous allons le contester, sous un certain rapport, je vais vous dire, François a tout à fait raison. Sous un certain rapport, François a tout à fait raison. L'Église, la néo-Église, est dans une force et une solidité structurelle que n'a jamais connue la vraie Église, que ne connaît pas la vraie Église. Vous allez dire, qu'est-ce que vous voulez dire? Regardez, la néo-Église est absolument garantie contre toute espèce de schisme. C'est-à-dire qu'on a vu ces dernières années des cardinaux insinuer publiquement que le pape était carrément hérétique. Des cardinaux se livraient à une réprimande fraternelle vis-à-vis du pape. Nous avons vu une multitude de gens, de docteurs, doctoresses, évidemment, n'oublions pas, des religieuses diplômées, des journalistes diplômés, des évêques aussi, nous ne les oublions pas, plus ou moins diplômés d'ailleurs, etc., faire une grande supplique au pape pour lui expliquer qu'en fait, il était hérétique, ou en tout cas, ses propos étaient très suspects d'hérésie. Vous voyez, aujourd'hui, encore, il y a des histoires pour des histoires de mœurs, etc. On dit peut-être l'Église moderniste est à deux doigts du schisme. L'Église moderniste ne connaît pas le schisme. L'Église moderniste est incapable de schisme. Pourquoi? Parce que on dit, il y a des évêques qui sont ultra-conservateurs, Monseigneur Vigano, etc. Il pourrait très bien faire un schisme et emporter une bonne partie de ce qui reste de bons catholiques. Il ne le fera jamais. Pourquoi? Parce que cette Église est la bénéficiaire de la nouvelle ecclésiologie dans laquelle le pape est tout et les évêques ne sont rien. Personne ne suivra jamais aucun évêque moderniste, aucun évêque de la néo-Église, si vous voulez dire les choses précisément, personne ne les suivra jamais parce qu'ils ne sont rien. Ils ne sont que des ectoplasmes du pape qui, dans la mesure où ils se distancient du pape, retombent dans le néant. D'ailleurs, c'est aussi ça ne date pas d'hier, cette fausse ecclésiologie, puisque c'est aussi l'ecclésiologie de certains partisans radicaux, de certaines thèses, etc. Donc, les évêques n'étant que des ectoplasmes du pape, il se trouve que dans la mesure où le pape ferme sa bouche, l'ectoplasme meurt. Vous voyez, comme dans les manifestations ectoplasmiques. De telle sorte qu'on a vu Monseigneur Vigano qui, après avoir fait des bras de fer, des bras d'honneur, etc., au pape, à un moment où il se sentait vraiment, en quelque sorte, trop adulé par tout ce qu'il y avait de traditionnaliste, il a dit, mais le pape, c'est le pape, et il faut faire attention. Pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Ah, c'est le soufflet qui retombe. Non, il sait qu'en tant qu'évêque, il n'est qu'un ectoplasme, et que dans la mesure où il se séparera de son pape, il retombera dans le néant. Alors vous allez dire, mais Monseigneur Lefebvre, par exemple, Monseigneur Lefebvre, en réalité, ce sont les laïcs qui sont venus le chercher. Les gens l'ont suivi parce qu'ils le voulaient bien. Ce n'est pas lui qui est sorti et qui a emporté un troupeau fidèle. C'est quelqu'un à la retraite qui a été, ce n'est pas du tout une insulte que je dis, mais c'est les faits, ce n'est pas pour dénigrer. C'était un évêque à la retraite qui avait certains doutes sur le concile, qu'on est venu chercher pour faire un séminaire, pour faire, etc., et surtout pour bénir ceux qui avaient déjà cours. Vous voyez, tous les laïcs, c'est là, n'attendaient pas le feu vert de l'évêque, tous les laïcs, les militants de la première génération, n'attendaient pas le feu vert de l'évêque pour commencer leur militance, comme ils militaient déjà depuis bien avant. Maintenant, si on peut se trouver un évêque pour se faire jeter quelques gouttes d'eau bénie sur nous, c'est pas mal, mais de toute façon, s'il disait non, ça serait un hérétique et on s'en moquerait éperdument. Donc vous voyez, cette notion de passion de l'Église est une notion qui est absolument problématique parce qu'elle n'est pas corroborée par la hiérarchie de l'Église qui, apparemment, est en train de vivre sa passion. Et même, la hiérarchie dit le contraire. Si ce n'était que ça, on verrait qu'en fait, ce n'est que l'opinion de gens ultra-conservateurs qui se cherchent des opinions pour ne pas sortir de la néo-Église. Bon. Mais s'il n'y avait que ça, on pourrait dire, bon, pauvres gens, ils se crèvent les yeux. Bon. Maintenant, il y a d'autres choses qui font que, pour nous, mes très chers frères, nous ne devons absolument jamais parler de la passion de l'Église. Pourquoi? Parce que, comme je vais le démontrer, je l'espère, c'est un véritable blasphème. C'est un blasphème. Le Christ, disions-nous, à juste titre, et ça fait partie de la doctrine de la passion du Christ, le Christ a été fait péché. C'est vrai, le Christ a été traité par son Père éternel comme un pécheur. C'est vrai, le Christ a perdu, comme dit le prophète, tout visage humain, tellement il a été déformé, pas simplement déformé par les coups de la flagellation, mais il a été déformé par la malédiction qu'il a assumée. Il a été, en prenant sur lui notre péché, il est devenu odieux aux yeux de son Père, mystérieusement parlant, et du point de vue du sacrifice. C'est vrai, mais tout ceci, il l'a subi pour nous. Or, si l'Église imite exactement son divin époux, et qu'elle est faite péché en quelque sorte, et qu'elle a l'apparence d'une Église hérétique, donc pécheresse, pour qui est-ce que c'est ? Le Christ a été fait péché, mais il a été fait péché pour nous. L'Église, mettons, selon ces gens, est faite péché, mais pour qui ? Il est donc impossible que l'Église imite son divin chef en étant, comme lui, faite péché. Alors vous allez dire, pourtant, la participation à la passion. Mais ce n'est pas du tout la passion. Personne n'a... Alors sinon, on peut dire la passion de l'Église, la passion de tel ou tel chrétien, votre passion, mes frères, la passion des saints, la passion des martyrs, la passion des confesseurs. Alors là, le mot passion se dévalue complètement, se galvaude complètement. Participation à la passion du Christ, oui, effectivement, participation active à la passion du Christ, c'est tout à fait vrai, c'est la doctrine de l'Écriture, c'est la doctrine de l'Église, c'est évident. Ce n'est pas la passion, c'est pas une autre passion, c'est la participation à cette passion unique, la passion qui est la passion du Christ. Si on parle de la passion de l'Église, en réalité, on dit qu'il y a une deuxième passion. Vous voyez ? Et puis, plus on est de fou, plus on rit, il y a une deuxième passion qui serait la passion de l'Église, mais vous oubliez la passion de la Sainte Vierge à la croix, la reine des martyrs qui a connu aussi, selon certains mysticoïdes, la passion, une véritable passion, etc. Donc ça fait la passion du Christ, la passion de l'Église, la passion de la Vierge Marie. Vous savez ce que je propose de faire ? C'est que le prochain pape, quel qu'il soit, on lui proposera de décréter un dogme, je lance l'idée du dogme du Christ co-rédempteur, c'est-à-dire le Christ co-rédempteur avec l'Église, le Christ co-rédempteur avec la Sainte Vierge, et puis d'une certaine manière, ça sera aussi une bonne façon de remettre les hommes à leur place. Parce que, après tout, pourquoi est-ce que ça serait la Sainte Vierge qui serait co-rédemptrice ? Pourquoi ce serait l'Église qui serait co-rédemptrice avec le Christ, et elles auraient leur passion, alors que ça serait le Christ qui aurait le monopole de la passion ? Vous voyez, après tout, remettons les hommes à leur place, qui sont toxiques et autres, c'est le Christ qui, après tout, imite sa maman, et l'Église qui est très indépendante du Christ, parce que l'épouse a tout à fait son indépendance vis-à-vis de son mari, l'Église a sa passion aussi, et si le Christ veut avoir sa passion à côté, eh bien, il y a deux passions, il y a trois passions, et c'est merveilleux, et si vous aussi, mes très chers frères, vous voulez avoir votre passion, allez-y, plus on est de fous, plus on rit. Donc vous voyez, mes très chers frères, on parle de la passion de l'Église avec la larme à l'œil, et surtout le micro à la bouche, et on parle de la passion de l'Église, on a l'impression d'avoir la clé universelle. On blasphème à pleine gueule, en réalité, quand on parle de la passion de l'Église. Il n'y a pas de passion de l'Église. Si l'Église a été, à un certain moment de son existence, particulièrement dans l'imitation des souffrances de son divin époux, ça a été dans les premiers siècles de l'Église, qui sont les beaux jours de l'Église, qui est le temps de l'Église, l'Église primitive, le temps glorieux de l'Église, où l'Église n'a pas connu de passion, mais elle a été associée à la passion de notre Seigneur, de telle sorte que, par le sang des martyrs, l'Église n'est jamais apparue, et n'apparaîtra plus jamais, aussi pure, sans rides, sans tache qu'elle l'a été. Le temps où l'Église a vécu véritablement dans l'imitation physique, si j'ose dire, de la passion du Christ, c'est-à-dire lorsqu'elle a versé son sang, elle n'a jamais été aussi orthodoxe. C'est le grand temps des pères de l'Église, des pères primitifs de l'Église, c'est le grand temps des apôtres, c'est le grand temps où de cette lumière primitive à partir de laquelle ensuite nous avons reçu, et à partir de laquelle nous avons reçu le dépôt apostolique. Il n'y a pas de passion de l'Église à la fin des temps. Il y a une imitation parfaite du Christ souffrant et du Christ glorieux aussi dans les martyrs de l'Église primitive, bien entendu ceux de la suite aussi, mais dans l'Église primitive. Et ensuite, Eh bien, il y a autre chose, cette soi-disant passion de l'Église est en réalité l'apostasie de la gentilité. Mais ça, nous en parlerons une autre fois, Dieu voulant, parce que nous sortirions de notre sujet. Il n'y a donc pas de passion de l'Église, mes très chers frères, si vous voulez être des catholiques tout court, ne parlez jamais de la passion de l'Église, car vous blasphémez la passion de notre Seigneur. Il n'y a pas deux passions, il n'y a pas trois passions, a fortiori, il n'y en a pas plus. Le Christ, si l'Église connaît véritablement comme le Christ exactement la même passion, si l'Église est en même temps le corps mystique du Christ, le Christ souffre une deuxième passion. Or, qu'est-il écrit ? Il est écrit, il est rentré une fois pour toutes. Il n'y a eu qu'une seule passion, mes très chers frères, la passion du Christ que nous agissons liturgiquement dans ces temps de la passion. Il se trouve qu'il y a eu une seule fois, sous Ponce Pilate précisément, la passion du Christ, et à partir de là, il y a une participation indéfinie à la passion du Christ, c'est vrai, mais il n'y a plus de passion. La passion de l'Église est un blasphème, c'est une notion que nous devons rejeter avec non seulement toutes les forces de notre foi, mais avec toute l'horreur aussi de notre charité. Il n'y a pas de passion de l'Église. Donc, mes très chers frères, je vous prie, ne parlez, si jamais vous l'avez fait, ne parlez plus jamais de la passion de l'Église, c'est un blasphème, et si vous l'avez fait, si vous continuez à le faire, eh bien, vous serez privé des sacrements. Et si vous l'avez fait, eh bien, confessez-vous, parce que, même si vous étiez dans l'ignorance et dans l'entraînement, il se trouve que c'est un blasphème. Il n'y a pas de passion de l'Église, il n'y a que la passion absolue, qui est la passion du Christ rédempteur, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné par lequel nous puissions être sauvés, et c'est le nom de notre Seigneur. Donc, mes très chers frères, la passion, revenons maintenant, je referme la parenthèse, si l'on peut dire, de cette réfutation brève, de cette idée blasphématoire de la passion de l'Église. La passion du Christ est l'effet du péché, nous disent les théologiens. La passion du Christ a été l'effet du péché sans lequel le Christ n'eût pas pu souffrir. Et pour faire entendre qu'il ne souffre pas par son péché propre, eh bien, dès l'entrée de cet évangile, il affirme qu'il est impeccable, et ainsi qu'il ne souffre que pour les péchés que les hommes ont commis. C'est pour cela que dans l'évangile d'aujourd'hui, il est dit « Qui de vous me convaincra de péché ?» Notre Seigneur dans son ministère temporel, en tant qu'homme, il est absolument, non seulement impeccable, mais innocent. Il n'a jamais commis aucun péché, il n'est pas marqué par le péché originel, bien entendu, il est le nouvel Adam par lequel vient l'expiation. Il fallait que les sacrifices symboliques des animaux, des sacrements de l'ancienne alliance, fussent accomplis dans leur réalité par une victime qui soit capable d'expier pour de bon et d'expier réellement le péché des pécheurs. Et cette victime, c'est l'homme-Dieu, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ est donc impeccable, et c'est pour cela qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, selon ces paroles merveilleuses de Saint Jean-Baptiste. La passion, mes très chers frères, si vous voulez encore une autre réflexion sur la passion ne doit jamais être décrite, ou même accessoirement, par nous, par les chrétiens, par nous qui en bénéficions, comme dans des termes d'erreur judiciaire. Il ne faut jamais dire, et si vous avez ces livres qui vous parlent de, je crois qu'il y a un livre qui parle de la passion de notre Seigneur, le procès de Jeanne d'Arc et le procès de Louis XVI comme des erreurs judiciaires, mais qu'est-ce que c'est que ça? Heureusement que notre Seigneur a été victime de ce qui est effectivement une erreur judiciaire, si l'on peut dire, mais ce n'est pas une erreur judiciaire dont il serait la victime au sens vulgaire du terme. Notre Seigneur a volontairement, pour des raisons mystérieuses, fermé les yeux des Juifs afin qu'ils ne puissent pas se rendre compte qu'ils étaient en train de crucifier le roi de gloire. Et cela pourquoi? Pour que nous, les païens, puissions être sauvés. Mes très chers frères, si les Juifs n'avaient pas commis cette immense iniquité, les païens seraient restés dans leur iniquité. Gloire à Dieu du fait que nous ayons été les bénéficiaires de leur aveuglement et de leur mise à l'écart provisoire. La passion donc de notre Seigneur n'est absolument pas une erreur judiciaire qui aurait pu être évitée si les Juifs avaient été plus intelligents, si le Sanhédrin avait été plus juste, etc. Ils ont fait exactement ce qu'ils devaient faire pour notre bien, pour notre, la plus grande gloire de Dieu. Ce n'est donc pas une erreur judiciaire. Écoutez ce que dit notre Seigneur aux femmes de Jérusalem qui pleuraient sur lui. « Ne pleurez pas sur moi, mais sur vous et sur vos enfants. » Le Christ a été fait péché pour nous, et s'il n'avait pas subi sa passion à cause de nous et pour nous, s'il n'avait pas subi sa passion pour nous, nous serions encore dans nos péchés. Si le Christ n'avait pas souffert pour nous, s'il n'avait pas porté nos péchés dans sa chair, eh bien, lui qui est sans péché, nous ne pourrions pas être justes, nous ne pourrions pas être innocents, nous ne pourrions pas recevoir la grande absolution du baptême et les multiples absolutions du sacrement de pénitence, encore appelé sacrement de réconciliation, par laquelle nous sommes réconciliés avec Dieu notre Père dans le Christ. Le Christ a donc été fait péché pour nous. En lui, notre péché a été expié. Nous pourrions passer des heures et même des années, toute notre vie, à essayer de commenter, très vainement d'ailleurs, mais comment nous avons été dépouillés de notre péché par le Christ, par le fait qu'il s'est revêtu de notre nature et qu'il a assumé volontairement aux yeux de son Père la qualité de pécheur et d'homme pécheur, de telle sorte que nous puissions avoir par rejaillissement la qualité d'homme juste. Il y aurait tant de choses à dire, mais je pense que le plus grand hommage que je puisse faire là pour l'instant, puisque j'ai déjà beaucoup parlé, puis il faudra encore parler beaucoup, c'est de me taire et de dire adorons ce Dieu sauveur, adorons notre sauveur. Lorsque nous disons le Christ sauveur, sachons tomber à genoux devant cette notion de sauveur. Il n'est pas simplement quelqu'un qui nous a donné un coup de main, il n'est pas, comme disaient les Pélagiens, quelqu'un qui nous a rendu plus facile l'obéissance à Dieu, il est celui sans lequel nous serions irrémédiablement damnés depuis que notre premier Père a commis son inqualifiable prévarication. Notre Seigneur a été fait péché pour lui. En lui, notre péché a été expié. Par le baptême, nous sommes incorporés en lui. Nous avons part à tous ses biens, nous dit l'Écriture. Nous avons part à son innocence et à sa qualité de fils bien-aimé du Père. Nous avons tout pleinement en lui, parce que, dit saint Paul, parce que, selon le psaume, apodeum copiosa est redemptio. Auprès de lui, chez lui, disponible chez lui, est une copieuse rédemption, une rédemption qui n'est pas simplement une rédemption des péchés, des prévarications légales, comme dans l'Ancien Testament, et ce n'est pas une rédemption qui nous sauverait de certains effets de notre péché, c'est une rédemption qui nous sauve du péché lui-même, et c'est une rédemption qui sauve le pécheur du pécheur, c'est-à-dire elle nous sauve en nous faisant mourir et en nous faisant renaître par les eaux du baptême, dans la personne divine et adorable et très aimée de Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ. Copiosa apodeum redemptio. Il est impossible, mes très chers frères, il est impossible d'être réconcilié avec le Dieu créateur. Comprenons bien cela. Il est impossible d'être réconcilié avec le Dieu créateur. Pourquoi? Parce que nous avons désobéi au Dieu créateur. Alors vous allez dire, mais qu'est-ce que vous venez de dire? Vous venez de dire que nous avons été réconciliés avec Dieu. Nous avons été réconciliés avec ce Dieu créateur qui a voulu être le Dieu rédempteur. Il est impossible de se réconcilier avec le Dieu créateur tel quel. Alors vous allez dire, mais c'est le même Dieu. Bien sûr que c'est le même Dieu. Mais qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que, vous voyez, malheureusement, il y a beaucoup de gens aujourd'hui, pour des raisons qui sont compréhensibles, mais pas qui sont pas légitimes, mais compréhensibles, disons, psychologiquement parlant, qui se disent, bon, moi je ne suis pas chrétien, ou si peu, je ne suis pas antichrétien, les maximes de l'évangile, je m'en contrefiche. La seule chose, je milite politiquement parlant, donc on n'est plus dans la militance strictement religieuse, donc on est dans quelque chose de plus lointain, que nous regardons de loin, de toute façon ça ne nous concerne pas tellement, mais je milite. Moi qui suis un catholique sociologique, je milite pour le retour, je ne sais pas moi, du roi, ou en tout cas d'une société, d'une république plus compatible avec les grandes valeurs chrétiennes, humanisto-chrétiennes, que sais-je, etc. Donc je milite pour cela, je me bats pour cela. C'est vrai que du point de vue du Dieu rédempteur, je prends sa loi un peu par-dessus la jambe. Mais il se trouve que moi, je suis plutôt du côté du Dieu créateur. Il y a l'ordre naturel, hein, et l'ordre naturel est contesté par toutes les bandes des idéalistes, des francs-maçons, etc. Bon, d'accord. Donc moi, je suis pour la loi naturelle, et je suis aussi pour tous ceux qui sont pour la loi naturelle, et qui dit naturel ne dit pas forcément religieux, donc on brasse un peu plus large, on peut parler un peu plus de gens. Moi, je suis plutôt du côté du Dieu créateur, Et je milite politiquement pour des institutions politiques qui soient plus en phase avec la réalité. Et la réalité, après tout, théologiquement parlant, religieusement parlant, eh bien c'est la création du Dieu créateur. Donc du coup, mes très chers frères, tout ceci est une illusion. C'est une illusion parce que c'est courir après le vent. Si le Seigneur ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent, bâtissent en vain. Si le Seigneur ne garde la cité, ceux qui la gardent, c'est en vain que les gardiens la gardent. Vous voyez, la cité, la maison, la famille et la cité. Il se trouve, mes très chers frères, que si nous croyons que par nos bonnes actions, anti ceci ou anti cela, et il y a de quoi être anti ceci, anti cela, parce qu'il faut voir ce qu'il y a en face, mais cela n'excuse pas. Si nous croyons que nous allons capter la bienveillance du Dieu créateur, parce que nous essayons de nous battre pour une amélioration des choses du point de vue strictement naturel, eh bien nous nous mettons le doigt dans l'œil jusqu'au coude, si vous permettez cette expression vulgaire. Il est impossible de se réconcilier avec le Dieu créateur. Nous ne pouvons accéder au Dieu créateur, qui est celui qui donne effectivement ses lois à la cité, etc., et tout le reste avec, bien entendu, mais que par le Dieu rédempteur. Le Dieu créateur s'opposera à vos desseins si vous ne l'abordez pas en tant que Dieu rédempteur. Et si vous voulez l'aborder en tant que Dieu rédempteur, c'est à genoux, en pleurant et en faisant pénitence. Mes très chers frères. Alors vous allez dire, oui, mais encore une fois, vous vous attaquez à la militance politique, et pourtant, on en aurait bien besoin. On en aurait bien besoin. Regardez regardez avec une loupe la militance, la dissidence politique. Au fur et à mesure que le temps passe, tous ces gens-là font leur coming out et on s'aperçoit que ce sont tous des débauchés, que ce sont des contre-natures, que ce sont des gens qui se fichent éperdument des lois de l'équité, des lois de l'honnêteté, de la justice. Ce sont des chrétiens qui, parce que simplement il y a un électorat chrétien, donc de temps en temps ils parlent du bon Dieu ou ils citent l'écriture ou les papes pour faire des clins d'œil aux chrétiens et gagner leur électorat. Ce sont des gens qui sont non seulement qui sont dégénérés, mais ce sont des gens qui insultent et injurient même le Dieu créateur qu'ils prétendent servir. Ouvrez les yeux, mes très chers frères, nous n'avons rien à attendre de ces gens qui sont simplement des mécréants différents des autres mécréants, d'accord, mais mécréants quand même. Le Dieu créateur n'est accessible que par sa face miséricordieuse du Dieu rédempteur. Vous voulez une cité chrétienne? Vous voulez une cité catholique? Alors séparez-vous de Babylone, mes très chers frères, séparez-vous de Babylone, rentrez dans l'ordre, et vous verrez si le Seigneur, notre Seigneur, n'est pas un Dieu qui est vivant et qui sait doter ses enfants de tout ce dont ils ont besoin. Cessez de vous moquer de Dieu, mes très chers frères, car tout ceci, et nous y viendrons, nous arrivons à notre deuxième point, tout ceci contribue activement à la passion du Christ, mais pas dans le bon sens du terme, pas du bon sens du manche, du bon côté du manche, si l'on peut dire. Nous arrivons à notre deuxième point. Écoutez ce que dit notre Seigneur dans cette parole du psaume tirée du graduel. Liberator meus domine de gentibus iracundis. Écoutez, Seigneur qui me délivrez de la colère des peuples, vous m'élèverez au-dessus de mes adversaires, vous m'arracherez à la violence des méchants. Qu'est-ce que ça veut dire ? Si vous lisez bien les textes du temps de la Passion, vous verrez deux réalités. Une réalité miséricordieuse et une réalité rigoureuse. La réalité miséricordieuse, c'est, encore une fois, je le répète, notre Seigneur Jésus-Christ, Fils éternel de Dieu, qui est fait péché pour expier les péchés des pécheurs. Mais vous avez, ça c'est le côté miséricordieux, mais vous avez le côté rigoureux, du Messie souffrant, demandant vengeance à son Père. Le principe de la passion de notre Seigneur, nous l'avons dit, c'est la souffrance volontaire que le Christ a voulu souffrir, à laquelle le Christ a voulu se soumettre pour accomplir la rédemption. Le Christ, nous l'avons dit, n'est pas une victime au sens vulgaire du terme. Il est une victime, alors au sens d'ostia, c'est-à-dire la victime sacrificielle. L'agneau, le bœuf, le bouc, etc., tous ces animaux, la vache, tous ces animaux qui étaient appelés des victimes, des hosties, dans l'ancienne loi. Donc il n'est pas une victime quand on dit « oh, pauvre victime ». Non, ce n'est pas une victime. Maintenant, il se trouve que c'est une victime volontaire, parce qu'il dit dans l'Écriture « ecce venio ». Voici, je viens. Notre Seigneur est représenté ici très exactement par le patriarche, notre patriarche Isaac, qui a uni sa volonté à celle de son père Abraham, qui obéissait à Dieu. Lorsqu'il a dit, mais où est, voici le bois, voici le feu, voici le couteau, mais où est la victime? Et notre père Abraham lui a dit, Dieu pourvoira lui-même, mon fils, à la victime. Et Isaac a très rapidement vu que la victime, c'était lui. Et est-ce qu'il s'est récrié? Est-ce qu'il a dit, ah ben attendez, on ne pourrait pas faire autre chose, etc. Il s'est uni à la volonté de son père. Notre Seigneur s'unit à la volonté rédemptrice du Père éternel. De telle sorte que c'est le Père éternel qui veut se réconcilier des créatures humaines pour les rendre participants de sa nature divine par la charité, la vision béatifique. Et Isaac, son fils, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus-Christ, s'unit à sa volonté et alors qu'Isaac n'était qu'une figure, notre Seigneur est le bélier qui est retenu volontairement par les cornes dans les épines et qui s'offre en lieu et place du Fils. D'où cette parole du psaume « meurt pour le Fils », etc., très mystérieuse. Il se trouve que notre Seigneur est le véritable Isaac qui va jusqu'au bout du sacrifice, qui est sacrifié sur le bois de la croix. Je vous rappelle cette image merveilleuse d'Isaac montant sur la montagne, portant le bois le bois de l'Holocauste qui ressemble parfaitement et qui annonce notre Seigneur portant le Saint-Arbre de la croix. Donc Isaac a, de même qu'Isaac a associé sa volonté à celle d'Abraham, de même notre Seigneur Jésus-Christ, Fils éternel de Dieu, a associé sa volonté à celle de son Père céleste dans l'expiation qu'il a accomplie. Or, mes très chers frères, la victime a été immolée. Elle a été immolée, gloire à Dieu, nous sommes ceux qui bénéficions de cette immolation. Mais elle a été immolée par qui? Elle n'a pas été immolée par le Père céleste directement. Abraham n'a pas eu le privilège d'immoler réellement Isaac, puisque l'ange lui a dit « retire ta main » au moment où il élevait sa main pour sacrifier son fils. Il faut bien que la victime du sacrifice, que la réalisation de la passion du Christ soit faite par des gens qu'on appelle des bourreaux. Les bourreaux, ici, ce n'est pas un gros mot, c'est l'officier du sacrifice. L'officier de l'exécution, mais comme c'est un sacrifice d'un homme, ce n'est pas simplement l'exécutant ou le boucher, c'est le bourreau. Il se trouve que, mes très chers frères, les bourreaux peuvent être de deux sortes. Les bourreaux de la passion du Christ, dans la passion du Christ, les bourreaux sont de deux sortes. Nous avons d'abord les bourreaux naturels, qui sont les hommes déchus en général, les ennemis de Dieu, qui ont été aimés par Dieu alors même qu'ils étaient ses ennemis, sans aucun mérite de leur part. Nous sommes tous, aucun de nous ne peut échapper à cette réalité, nous sommes tous les bourreaux du Christ. Nous avons tous été les bourreaux du Christ parce que nous sommes tous nés selon la nature de notre premier père Adam, et nous sommes nés prévaricateurs, ennemis de Dieu, enfants du diable, esclaves du diable, etc., mais surtout ennemis de Dieu. Donc il se trouve que c'est les ennemis de Dieu qui ont sacrifié son fils, pas directement bien entendu, mais par nos péchés. Il n'aurait pas pu souffrir sinon par nos péchés, lui qui est impeccable. Donc nous avons péché, oui, donc nous avons participé au bourrèlement du Christ, c'est-à-dire à la passion du Christ, au fait qu'il a été victime des sujets de l'activité des bourreaux. Donc nous sommes tous, ça c'est le premier aspect des bourreaux, nous sommes tous bourreaux naturels du Christ. Tout homme naissant dans la lignée d'Adam, et il n'y a pas d'homme qui ne naisse pas de la lignée d'Adam, est un bourreau naturel du Christ. Maintenant il y a une deuxième catégorie de bourreaux, et ce sont les bourreaux volontaires. Alors vous allez dire, vous allez parler de... Attendez, les bourreaux volontaires du Christ. Vous allez dire, mais oui, c'est l'autre partie de l'humanité, cette infime petite minorité qui embête le monde, etc. Non, attendez. Vous parlez des Juifs, sans doute. Les Juifs, notre Seigneur a dit, pardonnez-leur, Père, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc ils font partie des bourreaux naturels tels que nous. Ne dites pas n'importe quoi, ne ricanez pas. Il y a les bourreaux volontaires du Christ. Et qui sont les bourreaux volontaires du Christ ? Eh bien, mes très chers frères, il ne faut pas aller le chercher très loin, il suffit d'ouvrir les multiples sermons qui ont été faits au cours des 2000 ans de l'histoire de l'Église sur la Passion, pour le dimanche de la Passion, pour comprendre qu'il n'y a qu'une seule catégories d'hommes qui peuvent être appelés les bourreaux volontaires du Christ, et ce sont les chrétiens qui méprisent les engagements de leur baptême. Bien sûr que les Juifs ont collaboré, en fait, avec les Romains d'ailleurs, à la crucifixion historique du Christ. Bien sûr que tous les hommes sont les bourreaux du Christ par leur péché. Mais tout ceci est ou bien ignorance, ou bien providence, ou bien mystère providentiel là encore, ou bien, encore une fois, fait de nature. Nous sommes tous pécheurs, nous avons tous péché, nous sommes tous privés de la gloire de Dieu, et à ce titre-là, le Christ a porté nos péchés, et c'est pour cela que nous sommes les bourreaux naturels du Christ. Maintenant, les bourreaux volontaires, les bourreaux conscients du Christ, ce sont les chrétiens, uniquement les chrétiens, qui méprisent les engagements de leur baptême. Ce sont les réprouvés, si j'ose dire, c'est-à-dire, c'est une catégorie de réprouvés, ce sont les instruments ou les causes secondes de la passion. C'est-à-dire contre eux, contre ceux qui volontairement, en quelque sorte, crucifient le Christ en tant que leur rédempteur, et pas simplement en tant que l'agneau de Dieu sur lequel se déverse la méchanceté du monde, si l'on peut dire, sous un certain rapport, en tant que leur rédempteur. Eh bien, le Christ, contre eux, réclame vengeance à son Père. Ouvrez les yeux, mes très chers frères, lisez bien et attentivement tous les textes à partir de ce dimanche de la Passion jusqu'à la fin de la Semaine Sainte, et vous verrez quelque chose de terrifiant. Vous verrez, comme nous l'avons dit, le Christ, très doux agneau, qui s'offre volontairement pour les péchés du monde et pour l'expiation des péchés de tous ceux qui doivent être sauvés. Et vous avez en quelque sorte le Christ, agneau muet, conduit à l'abattoir, comme une brebis très douce. Et donc vous voyez en quelque sorte le Christ qui se tait, qui est tenu en longe par ses bourreaux et qui est mené au calvaire. Et puis en même temps, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez l'agneau de Dieu, qui siège sur le trône de Dieu, et de la bouche duquel sort une demande à son Père, qui est une demande de vengeance. Alors vous allez dire, mais c'est pas très chrétien ça. Ah oui, toujours, vous êtes plus chrétien que le Christ, alors c'est très très intelligent. Alors si vous voulez continuer, vous pouvez sortir, sinon vous taisez, vous continuez à écouter ce qu'enseigne l'Église. Comment ça? Écoutez un petit peu mes très chers frères, si je vous disais, regardez le Christ qui est l'agneau de Dieu, qui est une petite brebis que l'on conduit au massacre, il ne peut pas faire autrement. Le Christ n'a pas pu faire autrement que de se livrer pour vous. Regardez comme il est gentil, il ne peut rien faire d'autre que de souffrir à cause de vous. Est-ce que vous allez être méchant? Alors vous allez dire, ben ouais, moi je m'en moque éperdument. Ah, d'accord. Et qu'est-ce que je vais pouvoir répondre? Je vais pouvoir répondre, c'est dommage, vous savez, il est tellement gentil, il est tellement gentil. Regardez ce qu'il a fait pour vous. Et vous allez dire, ben moi je m'en moque éperdument parce que j'aime pas les gens gentils. C'est très bien. Maintenant, ça, c'est l'évangélisation moliniste, hein, où on pleurniche en disant « Mais s'il vous plaît, achetez notre camelote, parce que sinon elle va se périmer. » Qu'est-ce que dit l'Église? Elle dit « Regardez, ô homme pécheur, regardez l'agneau de Dieu, inespéré, qui a été donné par son Père, que vous aviez offensé en la personne de votre premier Père Adam. Regardez d'une façon, contre toute attente, cet agneau a été donné pour votre salut. Sachez maintenant que ce que vous avez fait pour le faire souffrir, si vous ne bénéficiez pas, par le baptême et par une vie de justice, de cette œuvre rédemptrice, cet homme que vous avez fait souffrir n'est pas simplement un homme que vous avez méchamment fait souffrir, c'est le Fils éternel de Dieu qui demande vengeance de ce que vous lui avez fait à son Père. Préférez-vous maintenant être au bénéfice de l'agneau de Dieu très doux qui verse son sang pour vous, ou alors l'objet de la vengeance du Père qui vient sur vous pour se venger, pour tirer vengeance de vous, de l'iniquité suprême qui est la vôtre, d'avoir fait souffrir la seule personne au monde qui ne méritait pas de souffrir. Et ça, c'est une autre évangélisation, voyez-vous. On n'est pas là en train de pleurnicher pour que les gens acceptent la camelote qu'on veut leur refourguer. On est en train de dire, il viendra un temps, mes très chers frères, où l'agneau de Dieu s'assiera sur son trône pour juger les vivants et les morts et le monde par le feu. Lisez bien les textes et vous verrez que notre Seigneur demande, alors même qu'il verse son sang par amour pour les pécheurs, il demande vengeance et justice de l'iniquité qui est accomplie sur lui. Érypémé, dominé des inimicis meis, arrachez-moi, Seigneur, à mes ennemis. Mes très chers frères, faisons très attention. Il y a quelque chose lorsque nous contemplons le crucifix, et ce n'est plus le moment de le contempler par les yeux du corps, mais par les yeux de l'âme, puisque le crucifix, vous l'avez vu, est voilé par les voiles violets du temps de la Passion. Lorsque nous contemplons le crucifix, nous ne voyons pas une victime de la méchanceté des hommes. Nous voyons le Fils éternel de Dieu qui s'est mis dans cette position, qui en réalité devait être la nôtre, mais pour notre damnation, il s'est mis dans la position qui devait être la nôtre, pour notre rédemption. Nous voyons le Fils éternel de Dieu, cet homme tout-puissant parce qu'il est Dieu, s'abaisser à devenir comme nous parce qu'il n'est pas nous, afin que nous devenions comme lui parce que nous ne pouvions pas l'être à cause que nous étions nous. Lorsque nous regardons le crucifix, nous ne voyons pas un pauvre homme qui souffre, nous voyons un Dieu qui nous sauve, un Dieu qui est en train de réaliser la Passion. Mais il a réaliser la Passion par le biais de ces causes secondes que sont les réprouvés qui se moquent de lui, les chrétiens qui se moquent de lui. C'est pour cela que dans le trait, il y a quelque chose de terrible qui est dit. Regardez le trait. On m'a souvent traqué c'est un psaume magnifique, le psaume 128. On m'a souvent traqué depuis ma jeunesse, Israël peut bien le dire, on m'a souvent traqué depuis ma jeunesse, mais sans venir à bout de moi. Ils ont labouré mon dos, les pécheurs, ils ont prolongé leurs iniquités, mais le Seigneur, dans sa justice, a tranché la nuque aux pécheurs. On m'a souvent traqué depuis ma jeunesse. C'est le Christ qui s'est fatigué à notre recherche. Le Christ a été depuis le commencement, regardez le Christ dans la personne du patriarche Joseph, par exemple, le patriarche de l'Ancien Testament, Joseph qui a été persécuté par ses frères, qui était haï par ses frères, aimé par son père, mais haï par ses frères, et qui a été, ses frères ont voulu le tuer. D'ailleurs, ils ont montré à son père la tunique trempée dans le sang, en disant, est-ce là la tunique de votre fils bien-aimé? Et parce que ce n'était qu'une ombre du Christ, un type du Christ, ils ne l'ont pas tué, mais ils l'ont vendu. Ils l'ont vendu aux Ismaélites qui l'ont revendu aux Égyptiens, et avec toute cette magnifique suite qui en est résultée par la grâce de Dieu. Mais ils l'ont vendu. Notre Seigneur, bien souvent, dit-il, ils m'ont traqué depuis ma jeunesse. C'est expugnant, mais ils m'ont fait la guerre depuis ma jeunesse. Notre Seigneur, depuis le commencement de sa vie, n'a pas cessé de souffrir à cause de la méchanceté du caractère méchant des hommes, à cause du fait qu'il est innocent. Donc, notre Seigneur, comme dit le magnifique et terrible De Profundis, il s'est fatigué à notre recherche. Curens me sedisti lassus. Vous vous êtes assis fatigué au puits de Samarie. Parce que vous étiez en train de me rechercher. Oui, c'est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, qui se fatigue à notre recherche. Dicat nunc Israël, sepe expugnavirunt me iuvent temer, qu'Israël le dise. C'est-à-dire que nous confessions, nous, l'Israël de Dieu, que nous confessions que notre Seigneur s'est fatigué à notre recherche et qu'il a tout fait pour nous arracher à l'esclavage du diable. Israël peut bien le dire, on m'a souvent fait la guerre depuis ma jeunesse, effectivement. Mais continuons un petit peu plus. Etenim non potuerunt miki, mais ils n'ont pas pu venir à bout de moi. Ni dans l'Ancien, dans les types, ni dans le Nouveau Testament, on n'a pu vaincre le Christ. Lorsque le Christ, notre Seigneur, est mort, qu'est-ce que fait ? Est-ce que sa vie lui a échappé comme un misérable qui, au bout d'un certain temps, crève sur la croix parce qu'il n'en peut plus ? Non, il a, au moment où il a dit « consummatum est », il a poussé un grand cri, le cri d'un homme valide, le cri d'un homme fort, le cri d'un héros. Il a poussé un grand cri tel qu'aucun crucifié n'est capable de pousser le cri, à cause, je ne vous fais pas un dessin, mais à cause des souffrances des suppliciés. Il a poussé un grand cri, montrant qu'il mourait au moment où il décidait de mourir. Et que 3 jours plus tard, il ressusciterait par sa propre puissance, qui est la puissance de son Père. Notre Seigneur dit, c'est etenim non potuerunt miki. Et c'est là où l'agneau de Dieu apparaît avec les 7 cornes sur le front. C'est-à-dire la puissance de l'agneau. Ce n'est pas l'agneau de Dieu doucereux des molinistes qui veulent qu'il ne soit que ça. C'est l'agneau de Dieu avec ses cornes, qui est capable de détruire ceux qui doivent être détruits par lui. Etenim non potuerunt. L'agneau de Dieu s'est fatigué à notre recherche, il a versé jusqu'à la dernière goutte de son sang pour nous, mais nous, Nous n'avons pas pu venir à bout de lui dans notre méchanceté. Ils ont labouré mon dos, les pécheurs. Supra dorsum meum fabricaverunt peccatores. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, mais nous passons rapidement. Prolongaverunt iniquitas suas. Malgré l'expiation du péché, ils ont prolongé leur péché. Ils ont prolongé leurs iniquités. Prolongaverunt iniquitates suas. Ils ont reçu le baptême et ils ont méprisé les engagements, ces engagements que nous prenons lorsque nous bénéficions du bain de la régénération. Ils ont prolongé leurs iniquités. Alors je ne parle pas des chrétiens qui tombent, qui chutent, qui se repentent, etc. Mais de ceux qui, quoique baptisés, parce que ça, c'est malheureusement très courant et c'est la lutte de la vie chrétienne. Je parle de ceux qui véritablement n'en ont plus rien à faire de leur baptême. De ceux qui, tout en étant chrétiens, tout en étant pro-chrétiens, se moquent éperdument des maximes de l'Évangile. Et disent, comme je le disais tout à l'heure, moi je combats pour la cité éventuellement chrétienne, ou en tout cas la société conservatrice, mais quant au détail de la religion, bon ben je fais mes Pâques, mais c'est tout, et puis qu'on vienne pas me casser les pieds avec ça, parce que tout ça c'est pour les enfants, pour les bonnes femmes ou pour les faibles. Attention, ils ont prolongé leurs iniquités en dépit de tout ce que j'ai fait pour eux. C'est ça que ça veut dire. Tremblons, mes très chers frères. Écoutez ce que dit la suite. Dominus justus concedit services peccatorum. Le Seigneur juste, c'est-à-dire le Dieu, Dieu le Père nous aime, attention, Dieu le Père qui est très juste, nous aime dans son Fils, c'est-à-dire que la justice de Dieu a fondu sur son Fils, et maintenant il nous aime parce que nous sommes justes in Christo, dans le Christ. Maintenant, en dehors du Christ, le Père éternel demeure, le Dieu juste, Dominus Justus, et qu'est-ce qu'il fait en dehors du Christ? Il concedit services peccatorum. Il a tranché, il a écrasé, il a les cervicales, la nuque des pécheurs. Notre Seigneur accomplit pour nous la grande expiation, mais malheur à ceux qui se délectent d'être ses bourreaux. Malheur à ceux qui prolongent leurs iniquités en se moquant éperdument de ce que le Christ a fait pour nous. Notre Seigneur, est notre sauveur, bien entendu, notre très bon sauveur, notre doux sauveur, c'est vrai, mais en même temps, il est celui qui demande vengeance à son Père de ceux qui prolongent leurs iniquités, parce qu'il leur a donné les moyens de faire cesser leurs iniquités en lui par la vie de justice. Tremblons, mes très chers frères. La haine de l'homme naturel contre l'œuvre du Rédempteur attire sur lui le châtiment éternel. Alors bien sûr, parfois, les maximes du Christ nous paraissent très dur, parfois nous avons de la mauvaise volonté, nous tombons, nous sommes quelque peu rebelles, mais nous revenons par la grâce de Dieu. C'est pour ça qu'il ne faut pas, toutes ces petites grâces qui nous sont données quand nous sommes en état de disgrâce, nous ne devons pas les mépriser, nous devons nous y accrocher comme à autant de filins qui peuvent nous faire revenir dans l'arche de Noé, de laquelle nous avions sauté, ou nous étions tombés, si vous voulez. Mais il se trouve, mes très chers frères, que l'homme naturel, en général, est révulsé par l'œuvre du Rédempteur. Pour être parmi les bourreaux volontaires de la deuxième catégorie du Rédempteur, eh bien, il suffit de s'aimer tel que la nature nous a fait. Souvenez-vous ce que nous avons dit parole de Saint Prosper il y a deux semaines, me semble-t-il. Saint Prosper disait: quel malheur pour l'homme que de prendre la bienveillance que Dieu exerce envers lui pour une agression. Nous avons le cerveau à l'envers, si j'ose dire. Nous pensons que toutes les manifestations d'amour de Dieu pour nous sont des agressions, et nous pensons que la colère de Dieu qui nous laisse faire ce que nous voulons faire est une sorte de bénédiction divine. Malheur à ceux qui n'en font qu'à leur tête, car ça veut dire, et si personne ne les reprend, et c'est pour cela que je les reprends, car c'est mon ministère, c'est mon devoir, et je serai en condition d'être damné si je ne le faisais pas. Malheur à ceux auxquels Dieu laisse faire tout ce qu'ils veulent, parce qu'ils sont l'objet, que Dieu les garde, que Dieu les sauve, bien entendu, que la face de Dieu change pour eux, mais il se trouve qu'ils sont l'objet de la colère de Dieu. Ils sont les bourreaux du Fils éternel de Dieu, parce qu'ils n'en font qu'à leur tête, et tout ce qui appartient à l'ordre de la rédemption, c'est-à-dire à commencer par la mise en ordre de sa vie, eh bien, est considéré par eux comme une agression. Et nous terminons par notre troisième point, qui est le développement de ce que nous venons de dire. Écoutez ce que disent les interlocuteurs de notre Seigneur. Ils lui disent, n'avons-nous pas raison de dire que vous êtes un Samaritain et un possédé du démon? Et un peu plus loin, ils disent, maintenant, nous savons que vous êtes possédé du démon. Mes très chers frères, nous avons la chair de poule quand nous entendons ces paroles-là, mais attention, attention, n'allons pas dire, oh là là, ces gens-là sont des enfants du diable, etc. Oh là, attendez, oui, c'est vrai, sans doute, mais attention, et nous, la doctrine du péché originel, la doctrine des conséquences du péché originel, la doctrine du châtiment terrible du péché originel fait blasphémer les pélagiens. Ah, le chrétien politique de tout à l'heure qui disait « Oui, bon, moi, les maximes de l'Évangile, j'en ai rien à faire, mais je suis pour une société où l'Église a sa place. » Eh bien, c'est quelqu'un qui dit, en réalité, même si ses paroles sont des paroles favorables au Christ, le Christ l'en remercie d'ailleurs, hein, c'est des paroles favorables au Christ, quelles sont les paroles réelles qui viennent aux oreilles du Père éternel? Le Père éternel entend que ce genre de chrétien-là dit à son fils « N'avons-nous pas raison de dire que vous êtes un samaritain et un possédé du démon ? » Ils se sentent offensés par la doctrine du péché originel, qui dit que toutes les œuvres bonnes de l'homme ne valent rien sans la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils sont offensés par cette doctrine qui dit que tout ce que l'homme peut faire par ses propres forces ne vaut rien. Ils sont offensés par cette parole qui dit que tous ceux qui construisent la maison et qui la construisent sans Dieu construisent en vain et sur des fondements sablonneux. Ils sont offensés par ces choses-là. Et c'est pour cela que quand on est un clerc et qu'on essaye d'être ami de ces gens-là, eh bien on met tout ceci sous le boisseau parce qu'on ne veut pas les offenser. Et puis on ne veut pas non plus se sentir ridicule. Et pourtant, c'est la vérité. Et ces gens-là, lorsqu'on leur parle de l'Évangile tel qu'il est, et tel qu'il est susceptible de permettre que la maison soit construite et que la cité soit gardée, ils vous disent « N'avons-nous pas raison de dire que vous êtes un Samaritain, un possédé du démon ?» Ils blasphèment le Christ, mes très chers frères. Ils sont les bourreaux du Christ, contre lesquels le Christ dit « Le Seigneur, dans sa justice, a tranché la nuque aux pécheurs. » Et que dit-il, notre Seigneur ? Il leur répond « Parce que notre Seigneur est doux, et parce que notre Seigneur ne menace pas, dit le prophète, il ne fait pas de menace. Notre Seigneur blasphémé ainsi, que dit-il ? Il dit, je ne suis pas possédé du démon, donc vous avez tort de juger la religion de cette manière-là, mais j'honore mon Père, c'est-à-dire, mais je fais ce qu'il doit, la doctrine est ce qu'elle doit être, elle ne doit pas être modifiée. Mais vous, vous me déshonorez. Tous ceux qui veulent honorer le Christ sans se soumettre à ses maximes le déshonorent et le traitent de démoniaque, c'est-à-dire d'insensé en réalité. Si nous voulons honorer le Christ d'une façon naturelle, grâce aux forces de l'homme naturel, à la face du Dieu créateur, nous sommes prêts à avoir la nuque tranchée par le Dominus Justus, le Seigneur juste. Alors nous nous indignons contre les Juifs, bien entendu, à juste titre, évidemment, c'est un peu épouvantable ce qu'ils disent. Mais les chrétiens ne valent pas mieux quand ils réduisent les maximes de l'Évangile à un idéal et qu'ils lui opposent les nécessités de la vie. Mes très chers frères, la nietzschéisation du christianisme, le mépris pour la doctrine des états de vie, le mépris pour la charité renvoyé parmi les vertus libérales, mes très chers, tout ceci déshonore le Christ. Et vous savez ce que dit notre Seigneur, il dit « Il viendra un temps où ils croiront rendre un culte à Dieu en vous persécutant et en versant votre sang. » Honorer Dieu par des actions qu'il n'a pas demandées, c'est déshonorer Dieu. « Si quelqu'un garde ma parole, dit notre Seigneur, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. » Nous devons nous conformer au Christ, notre Rédempteur, dans sa passion, souffrir ce que nous devons souffrir, selon le mode que nous devons souffrir, c'est-à-dire selon ce qui est exigé de nous, selon notre état. On ne peut pas comprendre ces choses-là si on n'est pas dans l'ordre en réalité, parce qu'on en vient tout juste, tout rapidement à dire « Oui, ben alors il faut tout subir, etc. » Soyez dans l'ordre et vous comprendrez ce que ça veut dire. Nous devons nous conformer au Christ, participer à sa passion, bien entendu, pour l'expiation de nos péchés, bien entendu, et aussi pour le salut de nos frères. Nous devons participer à sa passion pour ne, pour ne pas, mes très chers frères, être damné par le Père Céleste, comme, qui est le vengeur de son Fils, comme les bourreaux de la deuxième catégorie de son Fils. Mes très chers frères, demandons très humblement, nous qui avons tremblé, mais nous qui n'avons pas de raison de désespérer, demandons très humblement au Seigneur, envoyez votre lumière et votre vérité, elles me guideront et me conduiront à votre montagne sainte et à vos tabernacles. Suivons les pas de notre Seigneur dans sa passion, souffrons avec lui et nous serons glorifiés avec lui par la grâce du Rédempteur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.